Livres, BD,
films, musique,
jeux, spectacles.
Tu cherches, tu hésites, tu manques d'idées?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes
sur Radio Barthès 107 FM.
Bonjour amis de Barthès, je suis toujours en compagnie de Léo. Et pour ce nouvel épisode du chaudron, eh bien, l'actualité s'est imposée à moi. Une actualité qui n'augure rien de très bon pour l'être humain. En effet, des relents racistes s'infiltrent un peu partout dans notre société et malheureusement, des médias dont je tairai le nom s'en font l'écho. L'élection du nouveau maire de Saint-Denis, Bali Bakayoko, a montré à quel point la bêtise peut se manifester. Ce qui pourrait être drôle, comme le dit l'Huma Magazine du 1er avril 2025, c'est que ces réactions montrent que les racistes qui reprochent un prétendu manque d'intégration aux citoyens issus de l'immigration sont en réalité encore plus agressifs quand les héritiers de l'immigration s'intègrent tellement qu'ils deviennent maires. Bon, rien de drôle évidemment. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le maire de Saint-Denis. Par exemple, Abika, adjointe chargée de l'éducation à la mairie de Montreuil, a non seulement subi des attaques racistes, mais également sexistes. J'évoquerai tout à l'heure plusieurs articles autour de ces phénomènes. Le film et la littérature dont je vais vous parler concernent essentiellement la vie des Noirs américains. Car en effet, il y a une littérature assez importante qui illustre de manière sensible cet aspect abêtissant du racisme ordinaire ou institutionnalisé. D'abord, deux polars. Le premier, Traque noire. Donc je dis bien, je ne dis pas traquenard, mais je dis bien Traque noire de Ed Lacy. Ed Lacy est né en 1911 et décédé en 1968. Il a écrit sous pseudo. Il a vécu avec une femme noire et a adopté une petite fille noire à une époque où ça n'était pas très évident. Il était par ailleurs communiste. Dans tous ses écrits, il a dénoncé, ou du moins stigmatisé le racisme, la misogynie, le culte de la virilité et des armes, la corruption, la violence. Le héros de Traque noire est un afro-américain détective. Il est engagé par une animatrice d'une émission de télé-réalité à gros budget pour retrouver l'auteur d'un crime. S'il retrouve cet homme blanc, l'émission fera le buzz et peut-être que ça améliorera son niveau de vie. Malheureusement, avant qu'il ne finalise sa mission, cet homme se fait assassiner. C'est alors lui, le détective, puisque noir, qui devient le premier suspect. Si on l'arrête, il est bon pour la chaise électrique. Il faut donc absolument qu'il retrouve l'assassin. L'intrigue est très bien menée. Le suspense ne faiblit pas. Le roman se déroule dans une Amérique blanche et raciste des années du macartisme. Un bon roman facile à lire et bien ficelé, avec une fin surprenante. Le deuxième polar, c'est Bluebird, Bluebird de Attica Locke. Moins drôle que le précédent, ce polar américain met également en évidence la confrontation entre noirs et blancs. La problématique des races, je mets race entre guillemets, est omniprésente. Tension raciale, discrimination et même apparaît la FAT, F-A-T, la fraternité aryenne, sorte de Ku Klux Klan, mais qui a vraiment existé, qui en fait est né d'un gang de détenus fondé en 1964, qui prônait, tiens donc, la suprématie blanche avec violence, assassinat, trafic de drogue. De plus, l'histoire ne se déroule pas n'importe où, mais dans l'État du Texas, l'État le plus armé des États-Unis. L'écriture n'est pas forcément très littéraire, mais elle suggère avec efficacité la tension et la dureté des relations humaines entre noir et blanc.
strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black body swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather.
Ce que nous venons d'entendre, c'est Strange Fruit par Billie Holiday. Fruit étrange, c'est une métaphore qui illustre, hélas, les hommes noirs que l'on pendait aux arbres. Il y a d'ailleurs dans le film dont je vais vous parler une image glaçante à ce propos. Alors maintenant, les romans. Le premier roman dont je vais vous parler, c'est Ouragan de Laurent Godet. Laurent Godet est né en 1972. Il écrit des romans, du théâtre, des nouvelles, de la poésie. Certains de ses romans sont bien connus, comme El Dorado, qui parle d'émigration. Ouragan se passe en Louisiane, à l'approche justement d'un ouragan. C'est la panique. Les gens fuient le cataclysme qui va leur tomber dessus. La narratrice est une femme noire très âgée, qui a perdu son mari et ses enfants et qui ne souhaite pas quitter sa maison. Pour elle, plus grand-chose n'a d'importance, sinon mourir dans sa maison. D'autres personnages gravitent autour et font encore une fois référence à la couleur de peau, la pauvreté, le mal-être. Pas très drôle non plus, mais encore une autre vision de la situation des Noirs. Voici un petit extrait. Moi, Joséphine Ling Stinson, négresse depuis presque 100 ans, je prends le bus tous les matins. Et il faudrait une fièvre des marais, une de celles qui vous tordent le ventre et vous font suer jusque dans le pli des fesses, pour m'empêcher de le faire. Je monte d'abord dans celui qui va jusqu'à Canal Street, le bus miteux qui traverse le Lower Nines Ward, ce quartier où nous nous entassons depuis tant d'années dans des maisons construites avec quatre planches de bois. Je monte dans ce bus de rouille et de misère parce que c'est le seul qui prenne les nègres que nous sommes, aux mains usées et aux regards fatigués, pour les emmener au centre-ville. Je monte dans ce bus dont la boîte de vitesse fait un bruit de casserole, mais j'en descends le plus vite possible, 6 stations plus loin. Je pourrais aller jusqu'à Canal Street, mais je ne veux pas traverser les beaux quartiers dans ce taudis-là. Je descends dès que les petites baraques du Lower Nines laissent place aux maisons à 2 étages du centre avec balcon et jardin. Je m'arrête et j'attends l'autre bus, celui des Rupins. C'est pour être dans celui-là que je me lève le matin. C'est dans celui-là que je veux faire le tour de la ville, un bus de blanc qui me dévisage quand je monte, parce qu'il voit tout de suite que je suis du Lower Ninth. C'est celui-là que je veux. Et si je me lève si tôt, c'est que je veux qu'il soit bondé, parce que lorsque je monte, cela me plaît d'avoir devant moi une double rangée un peu blafarde, tous ceux qui vont s'épuiser au travail. Je m'assois et je le fais toujours avec un sourire d'aise, n'en déplaise aux jeunes qui me regardent en se demandant quel besoin a une vieille carne dans mon genre de prendre le bus si tôt. Oh, encore qu'il ne soit pas tant que ça à se demander ce genre de choses, car la plupart s'en foutent, comme ils se foutent de tout. Je le fais parce que j'ai gagné le droit de le faire et que je veux mourir en ayant passé plus de jours à l'avant des bus qu'à l'arrière, tête basse comme un animal honteux. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur le mot nègre, enfin les mots nègre et négresse qui est volontairement utilisé. C'est évidemment sujet à caution. Mais le concept de négritude a été introduit par Aimé Césaire. Aimé Césaire, né en 1913 et décédé en 2008, qui était un écrivain martiniquais. Il est à l'origine du mouvement littéraire de la négritude qui émergea dans les années 1930-1940. Il visait à affirmer la dignité, la culture et l'histoire des peuples noirs face au colonialisme et au racisme. Avec Léopold Sédar Senghor et bien d'autres, ils ont créé la Revue africaine en 1947. Senghor disait que la négritude est un fait, une culture. Mais tous n'avaient pas la même vision et certains pensaient que ce mot contribuer au contraire à stigmatiser davantage le peuple noir. Je ne me sens pas vraiment qualifiée pour en dire quelque chose, mais on le sait aujourd'hui encore, les mots « nègre » et « négresse » ont une connotation raciste et péjorative, sans parler des assimilations abjectes à certains animaux de la jungle. Le deuxième roman dont je vais vous parler, c'est « Harlem Quartet » de James Baldwin, sorti en 1978 et réédité en 2017. James Baldwin est né en 1924 à Harlem et mort en France en 1987. Ce roman est un pavé de presque 600 pages aux éditions La Cosmopolite, chez Stock. Ça va donc m'être un peu difficile d'en faire le résumé. Ce que je peux vous dire, c'est fort, dur parfois, sensible souvent et puissant tout le temps. Les références et les sujets sont multiples. En fait, je vais vous lire un extrait de la quatrième de couverture. Ce roman magistral où la violence et l'érotisme sont constamment maîtrisés par la tendresse et l'humour du poète est, comme l'écrit Alain Mabankou, l'un des plus beaux chants de fraternité, d'amour, d'espérance et d'expiation. Et pour que vous en ayez un petit peu l'envie, je vais vous lire deux petits extraits en fait. Un premier qui est plus sur le registre de l'humour, enfin l'humour noir si on veut faire à nouveau de l'humour noir. Il peut y avoir pas mal d'avantages à être noir. Par exemple, à cette époque en tout cas, quand vous entriez dans un magasin de ce genre en ville, chacun laissait tomber ce qu'il faisait et se précipiter pour vous servir illico. Si vous aviez le moindre bon sens, vous ne leur faisiez pas une conférence pour leur expliquer que vous saviez qu'ils se ruaient vers vous parce qu'ils savaient que vous étiez un voleur sans le sou. Non, vous décochiez un sourire, puis un autre, au détective maison en train de se polir languissamment les ongles à côté de la sonnette d'alarme. Et vous laissiez à l'assistance le soin de deviner où se trouvait votre portefeuille, si vous en aviez un. Vous preniez votre temps, l'air intelligent et blasé, avec l'humilité d'un aristocrate, vous signalez que vous aimeriez voir, avec aux lèvres une trace de ce qui n'était plus un sourire. Vous observiez le vendeur ou la vendeuse qui avait été sur le point de vous avertir du prix, s'étranglait avec sa langue. Avec la grâce héritée de vos ancêtres, vous prétendiez ne pas remarquer à quel point le vendeur ou la vendeuse avait frôlé le désastre, comme si, comprenant que la panique peut faire péter quelqu'un, vous indiquiez que vous saviez que l'odeur ne s'attarderait pas. « Eh bien, dit-il ou dit-elle, souriante, raide comme la justice, priant Dieu que l'odeur de ce paix s'évapore, nous avons... » Et il ou elle produit à l'aveuglette une cascade d'écharpes. Vous savez exactement ce que vous voulez, mais vous tâtez avec soin les écharpes en faisant de votre mieux pour dissimuler ce qui est soit du mépris, soit du désespoir. Vous savez que cette personne qui, à présent, vous détaille le pédigré de la marchandise n'est qu'une employée ici. D'un haussement d'épaules résigné, vous suggérez que vous aussi, vous savez combien la vie peut être dure. Puis, finalement, incapable de supporter un instant de plus le supplice de l'autre, vous dites « Bon garçon, je prendrai celle-ci ». Comme le soleil déchirant les nuages, le soulagement inonde le visage devant vous, suivi d'un rapide coup d'œil à l'homme qui a cessé de se polir les ongles et qui, maintenant, examine un présentoir de cravates. Il ou elle fait le paquet, ça fera, dites-vous en touchant votre cœur. Par ici, dit-il ou dit-elle, en vous conduisant au caissier, qui ne vous regarde pas, vous, mais seulement la fiche de vente. Le présentoir de cravate a perdu tout intérêt pour l'homme qui se concentre désormais sur les chapeaux. La vendeur-vendeuse s'attarde sur le périmètre du champ des opérations. Vous sortez avec soin votre portefeuille et comptez l'argent. Vous prenez votre reçu et votre paquet cadeau. « Joyeux Noël !» crie la vendeur-vendeuse. Et « Joyeux Noël à vous, répliquez-vous. » Et tous deux, titubants, vous quittez l'arène en prenant des directions différentes. Bon, ça montre quand même la difficulté au quotidien de la vie des Noirs à cette époque. Est-ce que ça a bien changé aujourd'hui ? Bonne question. Alors, deuxième extrait justement pour montrer un autre aspect de ce roman. Puisque dans l'histoire, il y a un jeune qui va faire une carrière de chanteur de gospel et qui va faire des concerts un peu partout et donc qui va devoir redescendre un peu dans le sud des États-Unis et on sait que les suds des États-Unis ont un passé peu glorieux. Alors, ça commence comme ça. « J'ai pensé que ça allait mal par ici, dit Arthur, quand on est venu la dernière fois. » Peanut avait une mine très grave. « Et comment, demanda-t-il, fait-on pour s'arrêter sur la route ? Mais je suppose que ça empire à mesure qu'on descend. Pour, vous savez, prendre de l'essence et se laver les mains ?»« Je n'ai jamais eu de problème vraiment jusqu'ici. » Il rit. « Mais je n'allais pas en Alabama. »« Ma foi, ils ont leur truc, soupira Mr. Reed. Ils vous vendront de l'essence. » Mais leurs toilettes seront hors d'usage. Ils ont plus d'un tour dans leur sac, mon vieux. Il soupira de nouveau. Si vous êtes seul, c'est plus facile. Parfois, ils se contentent de faire la grimace et de souffrir. Et parfois, ils sont vraiment gentils et vous parlent des résultats de baseball ou d'autres bêtises. D'ailleurs, les gens, la plupart des gens, ne sont pas moches au point de se croire obligés de fracasser le crâne d'un nègre solitaire. Sauf dans les périodes de tension, je veux dire. Et il sourit. Mais si vous êtes plus d'un, je ne sais pas. Ils semblent penser que vous venez pour leur faire quelque chose, comme si vous étiez l'avant-garde d'une armée en marche. Il secoua la tête. Je ne sais pas. Le mieux et de ne pas s'attendre à de la bonne volonté et de ne pas s'attendre à de la mauvaise volonté non plus. Mais ça finit par user. Eh oui, en filigrane, prédomine la peur et les risques encourus au quotidien. Ces quatre ouvrages se trouvent à la médiathèque de Florac. Alors, en petit bonus, je vous signale aussi un roman, mais alors que je viens juste de découvrir dans notre librairie préférée de Florac, « Les filles comme nous » de Daphné Palassi Andreades, une sorte de livre choral de filles à la peau brune. Très joli roman.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever. When we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right. Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them. Fever, if you live, you learn. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way.
Alors, le film dont je vais vous parler, c'est un film documentaire, I Am Not Your Negro, sur James Baldwin, réalisé par Raoul Peck. C'est un film d'archives où on le voit et on entend beaucoup, effectivement, James Baldwin. Son propos part de l'assassinat des combattants des droits civiques aux États-Unis. Medgar Evers, né en 1925, assassiné en 1963. Malcolm X, né en 1925, assassiné en 1965, et Martin Luther King, né en 1929, assassiné en 1968. C'est dense, c'est également difficile à résumer. Je vais juste relater deux séquences. En 1965, l'ancien ministre de la Justice Robert Kennedy affirme dans un discours que rien n'exclut que dans un futur proche, un noir devienne président des États-Unis. Amusant, n'est-ce pas ? 44 ans plus tard, le 20 janvier 2009, Barack Obama devient le premier afro-américain président des États-Unis. Intéressant, sauf qu'à cette époque, voici la réponse amère de James Baldwin. Pour un barbier de Harlem, Bobby Kennedy est arrivé hier. Il est déjà à la course à la présidence. Nous, on est ici depuis 400 ans. Et voilà, on ne sort pas indemne d'un passé esclavagiste. La deuxième séquence, c'est un débat télévisé aux États-Unis entre James Baldwin et un professeur de philosophie de Yale. Celui-ci, plein de bonne volonté, s'adresse à Baldwin en lui disant qu'il a plus en commun avec un professeur noir qu'un blanc opposé aux études, et que lui, Baldwin, est sans doute plus proche d'un blanc écrivain qu'un noir opposé à la littérature. Eh bien non, Baldwin est très en colère et il répond que lorsqu'il est arrivé à Paris avec 40 dollars en poche en 48, ça ne pouvait pas être pire que ce qu'il a vécu ici aux États-Unis. Voici ses propos. Vous parlez de devenir auteur par soi-même, mais alors, il faut couper toutes ces antennes, car si vous tournez le dos, vous risquez de mourir, et il le répète, vous risquez de mourir. Et il est difficile de se concentrer quand on a peur du monde qui nous entoure. Mes années à Paris m'ont permis de me libérer de cette terreur qui n'est pas le fruit de mon imagination, mais un vrai danger inscrit sur le visage de chaque flic. C'est vraiment une séquence très forte qui rappelle la violence omniprésente. Mais voici ce qu'en dit le réalisateur.
On ne peut pas critiquer une manière de faire ou une approche idéologique de l'image, du récit, du cinéma, sans utiliser des instruments différents. Sinon, si je restais prisonnier de ce type de récit, ce serait simplement verbal et pas organique. Donc, bien entendu, et ça je l'ai appris très tôt grâce à Baldwin, mais grâce aussi à Fanon, grâce aussi à Césaire, j'ai appris très tôt cette forme de résistance à ce qu'on appelle le discours dominant, qui est forcément un discours eurocentriste, qui est forcément un discours de vainqueur. Et je savais que l'histoire qu'on me racontait, d'abord, ce n'était pas la mienne, et ensuite, c'était celle du vainqueur, ou qui s'estimait vainqueur. Donc, il fallait toujours prendre le contre-pied, il fallait toujours questionner ce qu'on vous servait. Et Baldwin a fait un travail de déconstruction phénoménal sur ce plan-là. D'ailleurs, plus tard, quand j'ai lu ses premiers textes sur... les films comme Devine qui vient dîner ce soir, alors que jeune garçon, pour moi, ce film était éminemment progressiste, éminemment nouveau. En effet, ce film cassait des tabous, touchait à une réalité extrêmement importante. En même temps, le film imposait une image du noir qui était irréalisable. C'est-à-dire qu'il vous disait en gros, si vous voulez avoir la femme blanche, il fallait être médecin, être très bien habillé, être beau garçon, être extrêmement poli et séduire les beaux-parents, etc. Donc on rentrait, on attaquait un cliché en créant un autre.
Alors il faut rappeler aussi le courage des femmes noires américaines qui bravèrent les lois ségrégationnistes, comme Claudette Colline ou Rosa Parks, qui refusèrent d'abandonner leur siège de bus à un homme blanc. Ce film documentaire se trouve à la Nouvelle Dimension. J'ai donc évoqué les États-Unis où la déségrégation, en d'autres termes la fin de l'apartheid, date quand même de 1964. Ça, c'est pour les textes. Mais dans la réalité, c'est une autre affaire, et on peut penser à la mort de George Floyd récemment. Mais plus récent, c'est la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, qui ne date que de 1992. Écoutons cette chanson en hommage à Nelson Mandela, qui fut quand même emprisonné 27 ans.
Hasimbonanga, Hasimbonangu Mandela Tina, la pekona, la pefelikona.
Hasimbonangu Mandela Tina, la pekona, la pefelikona.
Hassim Bonanga de Johnny Clegg et Savuka. Johnny Clegg, appelé le Zoulou blanc, qui fut très souvent censuré, voire arrêté, car lui aussi défiait les lois de l'apartheid. Je vous avais parlé en début d'émission d'articles de journaux. Eh bien, l'Humanité du 17 avril 2026, Delphine Gardet, sociologue et historienne, nous parle de la difficile ascension des Noirs et colonisés au mandat électif français. Et l'Humanité Magazine, du 16 avril 2026, propose une interview de Kofi Yamnian. Kofi Yamnian, qui fut élu maire de Saint-Coulis dans le Finistère en 1989. Et que nous dit-il, Léo ?
La question posée est la suivante. Pourquoi avoir écrit le livre « Mémoire d'outre-haine » en 2021, dans lequel vous documentez les attaques dont vous avez été victime ? Et il répond « J'ai reçu des courriers hallucinants en 1989. Quelqu'un m'a envoyé une lettre d'insulte qu'il avait frottée dans sa merde. Ces gens ne pouvaient pas supporter qu'un noir puisse être maire. J'ai tout conservé jusqu'à constituer un véritable musée des horreurs. Ce qui m'a le plus embêté, c'est que je ne pouvais pas répondre à ces courriers, car ils étaient anonymes. » J'ai donc pensé mon livre comme une réponse à ceux qui sont racistes par ignorance.
Alors un autre journal fait aussi référence à une autre apartheid, c'est la revue Silence de septembre 2025. C'est une interview d'un membre du collectif Tzedek, collectif juif, antiraciste et anticolonialiste. Et ben, que dit-il, Léo ?
La question posée est la suivante. vous considérez que pour lutter contre l'antisémitisme, il faut lutter contre l'islamophobie. Pourquoi ? Et il répond : on croit parfois avoir besoin d'un autre pour se constituer en tant que groupe. Pendant longtemps, les personnes juives ont été une des figures de cette altérité construite. Aujourd'hui, en France, les musulmans ont remplacé les juifs dans la figure de l'autre. Nous, on refuse fermement l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme pour nourrir de l'islamophobie. Sous couvert de « on aime tous les juifs », ce qui revient d'ailleurs aussi à une essentialisation antisémite des juifs. On fait de nous une bonne minorité par opposition à d'autres qui seraient des mauvaises minorités. C'est chercher à nous monter les uns contre les autres.
Eh oui, la peur ou la haine de l'autre n'est pas seulement, hélas, le problème de couleur de peau. Pour finir, je vais laisser parler Albert Jacquard. Albert Jacquard, né en 1925, décédé en 2013, polytechnicien, généticien et philosophe. Le besoin de définir des races est rarement motivé par un pur souci de taxinomiste désireux de mettre de l'ordre dans l'ensemble de ces données. Il résulte du désir si développé dans notre société de différencier des autres groupes celui auquel nous appartenons. Les Chinois ont le front large, les nègres sont en général paresseux. Arrêtons là ce sottisier qui, il faut le rappeler, n'est pas fourni par la prose d'un romancier formulant des sentiments personnels, mais a été écrit par un géographe soucieux de faire œuvre scientifique. Dans son livre « Éloge de la différence » édité en 1975, Albert Jacquard affirmait « Les races humaines de nos vieux manuels de géographie sont fondées sur la couleur de la peau. Mais songe-t-on que cette coloration résulte des variations de quantité d'un même pigment dont le déterminisme tient à quelques gènes. Sur 100 différences entre deux individus, 7 seulement tiennent à la race et 8 concernent les variations techniques. Alors, y a-t-il un raciste dans la salle ? Allez, à bientôt. Au revoir.
Livre, BD,
film, musique,
jeu, spectacle.
Tu cherches ? Tu hésites ? Tu manques d'idées ?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes
sur Radio Barthès 107 FM.